Sylvie Augereau.
Je crains que vous ne soyez obligé de...
Je suis un peu grognonne.
Rompre un peu cette belle ambiance. Pourquoi?
Parce qu'on a un peu de chagrin dans le vignoble en ce moment. Parce que l'année dernière, déjà, je suis arrivée en grognant, vous vous souvenez?
Oui.
Parce que ça allait pas.
Mais vous avez raison de vous intéresser d'ailleurs à la vie de nos vignerons qui souffrent de certains aléas climatiques.
Voilà, ça se répète encore cette année. On a eu 15 jours de gel au printemps. On a perdu une énorme partie du vignoble. Les vignerons sont battus toutes les nuits, ils ne dormaient pas contre des températures qu'on n'a jamais vues à cette période.
Oui.
Donc forcément, ils ont perdu. C'est une nature qui déraille. Voilà, on va perdre aussi des jeunes. Voilà, on connaît des gens qui sont installés depuis 6 ans, qui ont connu 4 années de gel dans la Loire ou ailleurs. Ils sont essorés, ils en ont marre et il y en a qui vont plier. Voilà, je voulais adresser un peu un message aux restaurateurs qui sont supposés être les amis.
Alors vous en avez un là en plateau, Jean-Luc Tartin.
Lui, je sais très bien que c'est un ami.
Oui.
Voilà, qui comprend ce boulot.
D'accord.
Mais je voudrais expliquer aux restaurateurs qu'un gel à 90%, c'est une année sans client. Voilà, on continue à assurer le service, à louer du linge, on paye les salaires, on achète des produits, on a des matières premières, mais l'argent rentre pas. C'est comme si le restaurant était vide pendant un an. Mmh. Alors oui, dans un monde idéal, on rêverait d'écologie, mais le temps d'y arriver, il va surtout falloir un peu de solidarité, beaucoup. Et quand je vois les coefficients pratiqués, appliqués, comme on dit... Aujourd'hui, dans la restauration en France, on n'a pas honte de faire 5, 6, voire même 10 dans certains grands restaurants. 10 fois le prix du travail du vigneron.
Explique combien le coefficient, juste en un mot, ouais. Le coefficient c'est...
Le coefficient, on achète un prix, on multiplie par jusqu'à 10. Ouais.
Voilà,
ouais,
le prix d'une bouteille,
on rajoute
ça
la TVA.
Fait sans honte.
On rajoute la TVA, c'est ça?
Et oui, on multiplie, si c'est un coefficient 3, on multiplie le prix
voilà,
par
une
3.
Bouteille qui coûte 6 euros, multiplié par 3,
et 18. Et ça reste un truc... normal à qui que même les comptables conseillent dans une salle. Il y a un chef génial parisien que je citerai pas parce que je l'aime beaucoup quand même, qui a 6 mois d'attente de réservation dans sa boutique et qui m'expliquait gentiment, sereinement, qu'il gagnait pas d'argent sur sa cuisine, que les gens viennent manger de l'autre bout du monde, mais il gagnait d'argent sur le vin quelque part sur le dos des vignerons. Je suis désolée. Voilà, c'est une logique. C'est pas la même en Italie ou en Espagne. On le sait, même dans les grands restaurants, on boit bien moins cher que ça. Et moi, j'ai un souvenir du Havre. Moi, j'ai un très bon souvenir du Havre, mais j'en ai un il y a 10 ans. Un festival omnivore. On essayait de mêler un peu les deux mondes. Et à Marc Vera qui montait sur scène, et on lui avait associé un grand vigneron champenois, très respectable, Anselme Cellos. C'était un peu une chance pour lui.
Star de Champagne.
Voilà. Avant de monter sur scène, Sébastien Demorand, qui animait le plateau, demande à Marc Vera qu'est-ce que c'est pour vous un vigneron, qu'est-ce qu'il représente le vigneron. Donc lui sourit un peu en coin, il dit non, je peux pas vous le dire. Et il répond devant une salle pleine, des coefficients.
D'accord.
Voilà.
Bon, ça en dit long effectivement sur la considération ou le manque de considération que certains restaurateurs, même étoilés, peuvent avoir à l'égard des vignerons en se faisant un peu quand même des marges sur leur dos. Vous en pensez quoi? Quel coefficient vous pratiquez dans votre restaurant?
Sur l'ensemble de la cave à l'année, je dois être à 2,85 de hors taxe à hors
taxe.
Autant
dire que c'est très raisonnable.
Pour 2 étoiles Michelin.
Oui. Oui.
Bravo.
Certains restaurateurs vont jusqu'à x10 quand même, hein.
Ah oui,
faut le préciser. Ça méritait d'être rappelé. Merci beaucoup, Sylvie Augereau. On passe à la pomme. On tombe même dans les pommes avec vous, puisqu'on est au pays de la pomme.
Pas que liquide, non, elles sont, justement, c'était très dur, là, quand je suis passée.
Oui.
Voilà, on va faire un petit peu de bucolique. Donc, je vous emmène à 1 heure d'ici dans une grande ferme, tout ce qu'il y a de plus normand, rousse comme un livaro, d'ailleurs, c'est juste à côté, et colombé de bois tout autour comme les liserés du fromage.
Ah oui,
vous avez remarqué comme le fromage, en fait, il ressemble aux maisons normandes.
C'est vrai.
Ouais. Donc voilà, ici, rien n'a bougé depuis le 18e. Les ancêtres de Julien Frémont sont arrivés en 1759 pour faire du cidre, et ils en font toujours.
Oh, ça, c'est incroyable.
Voilà, entre-temps, il y a des vaches qui sont venues aussi pour manger. Et Julien, il a presque 100 de vaches. Et comme elles sont en liberté, un peu sauvages, il faut les attraper à la corde, voilà, pour les soigner. Et elles connaissent que leur patron, donc il est un peu tout seul à bosser. Mais tout ça, c'est une espèce de monde assez féerique. Et c'est vrai que quand on traverse le chemin pour arriver, on a tout de suite compris. Ça vit en symbiose avec les pommiers.
C'est où exactement?
C'est à Saint-Georges-en-Auge.
C'est ça.
Ça s'appelle, le GPS m'a emmené dans la maison d'à côté, mais ça s'appelle Fort Manel.
Pays d'Auge.
Voilà. Mais c'était
pas très loin d'ici.
Ça fait 1h10.
C'est ça.
Donc, les vaches, elles tondent, elles nourrissent le sol, elles s'abritent à l'ombre des pommiers quand elles ont chaud, et elles mangent un peu de pommes, bon, c'est le jeu, et taillent les arbres à 2 mètres sous leurs naseaux.
Oui.
Voilà. Donc là, on ne parle pas de rangs serrés qu'on a inventé dans les années 80 d'industrialisation pour faire de la culture intensive. Ils sont en quinconce, les pommiers. Ils ont 15 mètres par 15 pour s'épanouir. Tout ça, ça permet aussi de moins propager les maladies, puisqu'ils ne sont pas en contact. Et Julien, il ne traite pas. Aucun traitement. Il prend ce qui reste, les pommes qui restent. Là, il est un peu gelé cette année, c'est comme ça. Mais quand on sait que c'est une culture qui nécessite quand même 20 à 40 passages de traitement par an, les pommes, c'est pas la culture la plus écologique. Mmh. Donc ça fait une différence. Puis bien sûr, donc il n'y a pas de tracteur et donc pas de carburant. Et pareil pour la récolte, la diversité, ça favorise aussi un ramassage plus tardif et plus long, ce qui permet aussi de faire maturer les pommes dans les greniers. Il est un des derniers à faire ça. Moi, j'ai visité son grenier, c'est assez hallucinant. Parce que les pommes dans les greniers, elles se déshydratent un peu. Mm-hmm. Donc elles gagnent...
Elles se flétrissent.
Elles se flétrissent un peu, elles gagnent en densité.
Et elles perdent en eau.
Voilà. Mm-hmm. Et ça se fait plus, parce que forcément, ça coûte trop de sous et c'est trop de main d'œuvre et c'est trop délicat. Et en plus, ça fait des architectures assez rigolotes, quoi. Parce que c'est vraiment des beaux greniers à pommes. Tu fais tout par densité. Voilà. Pour maîtriser les fermentations, c'est aussi plus simple. Et ici, dans son cru, ils ont valorisé les tout petits fruits, parce que l'essentiel c'est, dans la pomme, c'est la peau. Plus il y a de peau, plus il y a d'arômes et de couleurs. Et comme partout dans le pays d'Auge, eux, ils sont surtout sur l'amertume, le côté pierreux, l'avant et désaltérant.
Justement, on a soif.
Ah, mais il a circulé le canevas, là, vous l'avez?
Chez nous, le cidre est complètement différent. Ouais. Comme il est encore différent dans l'Orne, ouais, etc. Et on dit toujours qu'il y a du cidre pour n'importe quel moment de la journée, en fait, sur toute la Normandie.
C'est ça.
Même au petit déj.
Même au petit déj.
Mais c'est que de la pomme. Et même le calva.
Quand on était gosses, nous, on ramassait les pommes et on les écrasait. Et puis, nous, les enfants, on était tous pris pour monter dans les pressoirs, nu-pieds, pour tasser toutes les pommes avant qu'on presse après.
Moi, je l'ai fait aussi quand j'étais gamin.
Belle amertume, hein, d'ailleurs. Intéressant.
Ouais, super amertume. Ouais, y a toujours ce côté caillou, là.
Toutes les références du cidre et du calvados, donc,
en
ligne.
Un mauvais pommier, puis tout ton cidre est gâché. Il y a certains agriculteurs qui n'arrivaient pas à avoir de bon cidre à cause d'un pommier.
Absolument.